Bonsoir à tout le monde. Pour ce soir, cette petite méditation, une fois de plus, un texte connu, archi-connu, un événement que dès que je vais vous le lire, vous allez tout de suite connecter tout un tas d'idées, de choses que vous avez entendues, parce que c'est un texte qu'on entend, en tout cas pour ma part, depuis l'école du dimanche, depuis que j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et tout le monde l'a entendu. On l'aime, on ne l'aime pas, il nous a fait peur, il ne nous a pas fait peur. On est émerveillé. Et c'est ce genre de texte. Et comme je vous le dis souvent quand je viens ici, je fais toujours une demande à l'Esprit avant d'ouvrir la parole de Dieu. Cette demande, je la fais maintenant depuis presque 10 ans. Toujours la même. Une demande de grâce qui est celle de lire la parole comme si c'était la première fois. En mettant à cœur quelque chose peut-être que je n'aurais pas vu, entendu. En laissant de côté aussi les préjugés. En mettant de côté tout ce que j'ai entendu peut-être aussi. De bien, de moins bien, de super. Mais juste d'entendre cette parole comme la première fois. Et vous savez, l'Esprit écoute cette demande. La parole, souvent, je l'entends comme si c'était la première fois. Et je suis tout émerveillée en me disant, ah bon ? Et pourtant, je connais presque ce passage par cœur. J'aimerais vous inviter à cette demande de grâce pour ce soir. J'aimerais que cette parole archi connu, cet événement magnifique que nous allons partager ensemble, on l'entende tous comme pour la première fois. Et nous faisons ensemble cette demande de grâce à l'Esprit-Saint, à ce souffle qui est là déjà et qui souffle. Et c'est pourquoi on ne va pas la projeter. Je vais vous la lire pour qu'on puisse l'entendre. Et lorsque je vais vous la lire, lentement, j'espère, voyez ce que l'Esprit va vous faire retenir. Un mot, un bout de verset, un événement, quelque chose de spécial peut-être. Gardez-le bien dans le cœur. C'est ça qui a quelque chose où les liens vont se faire. Nous prions. Seigneur, nous nous ouvrons à ce temps de partage de ta parole, de ton pain. Nous nous ouvrons à la présence de l'Esprit. C'est lui qui inspire, c'est lui qui enseigne, c'est l'Esprit qui révèle. Et nous, nous voulons juste ouvrir nos cœurs et recevoir cette semence qui tombera dans notre terre intérieure pour qu'elle porte, pour qu'elle prenne racine et qu'elle porte du fruit pour l'éternité. Et il arriva, l'un de ces jours, que Jésus monta dans une barque et ses disciples étaient avec lui. Il leur dit, passons à l'autre rive du lac. Et ils prirent le large. Et comme ils voguaient, Jésus s'endormit. Et un vent impétueux fondit sur le lac. Et le bateau s'emplissait et ils étaient en péril. Et ils vinrent, et ils le réveillèrent, disant, « Maître, maître, nous périssons !» Et lui, s'étant levé, reprit le vent et les flots. Et ils s'apaisèrent, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, « Où est votre foi ?» Mais eux, saisis de crainte, étaient dans l'étonnement, disant entre eux, « Qui donc est cet homme qui commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent ?» Je ne sais pas ce que cette parole à la lecture vous entendez, et sans vouloir être dans la provocation, mais lorsque je l'ai relu pour la préparation de cette soirée, je me suis dit, est-ce que Jésus dort souvent lorsque je suis en difficulté? Est-ce que Jésus s'endort dans ma barque de péril et je suis en péril? Peut-être que vous avez cette question aussi. Peut-être que la réponse est même oui. C'est notre vérité d'aujourd'hui, peut-être notre réalité. Nous avons l'impression que Jésus dort pendant que nous sommes en péril. Et ce n'est pas un mal, et ce n'est pas non plus un péché de le reconnaître. Cette histoire, cet événement qui s'est passé dans la vie de Jésus pendant qu'il était sur la terre, cette histoire se termine bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi dans ma vie, pas tout se termine bien à mes propres vues humaines. Il n'y a pas toutes mes histoires qui, c'est un happy ending, comme disent les Américains. Tout va bien et c'est super. Là, ça se termine bien. Et là aussi, on peut se dire, mais est-ce que vraiment tout doit toujours bien se terminer parce qu'on est justement des bons chrétiens? C'est une question. La version que j'ai lue, elle vient de la Bible Darby. Et c'est très précisément cette version que j'ai prise. Je vous le dirai tout à l'heure pourquoi. C'est Marc, l'évangéliste Marc, qui nous la raconte. Et il y a trois évangiles qui racontent cet événement. C'est dire l'importance lorsque trois évangiles, voire quatre des fois, mais trois en tout cas, prennent un événement. C'est dire que c'est un texte qu'on appelle un texte fondateur. Un texte qui veut qu'on l'entende. Et Marc, vous le savez, l'évangéliste Marc, lui, il est très succinct dans les choses qu'il dit. Hein. Il n'a que 16 chapitres, c'est le plus court de tous les évangiles, etc. Comme s'il veut aller à l'essentiel, toujours. Comme s'il ne s'encombre pas de fioritures et des choses comme ça. Mais vite, 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 il va à l'essentiel et il nous raconte cet événement, pourtant majeur, en 6 versets. C'est ce que nous avons entendu. Que nous dit aujourd'hui, en 2018, cet événement? Comment le relier à nos situations? Oui, on peut penser les tempêtes de la vie et tout ça. Bien sûr qu'il nous parle de tout cela. En tout premier, nous avons Jésus qui invite lui-même les disciples à passer d'une rive du lac à l'autre rive. C'est son invitation. Déjà là, on peut se dire, pourtant il aurait dû savoir qu'il y aurait une tempête. C'est Jésus qui invite les disciples. Le texte dit aussi que c'est le soir, c'est-à-dire le soleil se couche, il va faire nuit. Est-ce qu'on va passer le lac là en pleine nuit? Mais c'est des professionnels qui sont là. La plupart des disciples, nous le savons, hein, c'était des pêcheurs que Jésus a pris. Il les invite à passer à l'autre rive. Nous sommes toujours invités à passer à l'autre rive. Et peut-être qu'il serait intéressant ce soir qu'on fasse mémoire de toutes les rives que nous avons passées ou celles que nous sommes en train de passer. La rive peut-être d'un nouveau job, d'un mariage, la rive de la naissance d'un enfant, de l'arrivée d'un petit qui vient à grandir la famille. Nous passons d'une rive à l'autre. Il y a quelque chose qui se passe. Ou alors, peut-être que nous sommes en train de traverser une épreuve, justement. Mais Jésus invite toujours, dans toute la parole on le verra, on le voit, il invite toujours à un déplacement. C'est jamais statique, jamais. Il y a toujours quelque chose qui bouge, quelque chose qui va d'un point à un autre. Les disciples, ce soir-là, ils savaient d'où ils partaient. Ils avaient une vague idée, l'autre rive, c'est vague. Quelle autre rive? Si nous prenons le lac Léman, là il s'agit du lac de Galilée, si nous prenons le lac Léman et que je vous dis nous allons à l'autre rive, on peut me dire oui mais quelle rive? On peut être en Suisse, on peut être en France, on peut être au bout du Bouvray, on peut être à Genève. Quelle rive? Donc c'est cette autre rive que Jésus invite. C'est un déplacement. Et la chose à dire, c'est que s'il nous invite à cette autre rive, il n'empêche pas que la tempête arrive. Il n'a pas dit « Allons à l'autre rive, tout se passera bien, tout sera dans le calme. » Il a dit « Allons à l'autre rive. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte avec eux, dans ce bateau. Jésus est là. Et il est vrai que cette barque représente bien notre vie. Que cette barque, c'est la traversée qui se passe dans notre vie à nous, dans nos lacs de relations, dans nos lacs professionnels, dans nos lacs familiaux, dans nos lacs d'épreuves. C'est bien de notre vie qu'il s'agit. Et il y a des nuits dans nos vies. Il y a des jours et il y a des nuits. Et parfois, ces rives, il faut les passer en pleine nuit. Le Christ est là. Et le Christ s'endort. Cette image de Jésus qui s'endort, je ne sais pas si vous pouvez vous l'imaginer. Il est là, Jésus s'endort. Mais oui, mes amis, Jésus s'endort parce qu'il est venu en vrai homme, avec ses limites. Il mange, il boit, il est fatigué et il dort. C'est un vrai homme. Difficile pour nous de comprendre parfois. Jésus dort parce qu'il est fatigué. Et il est là, dans cette barque. Et je me suis dit, en voyant cette image de Jésus qui dort, je me suis dit, quelle confiance il fait à ses disciples pour dormir. Quelle confiance! Si par exemple, moi, je suis à côté d'un conducteur de voiture et que je m'endors, je vous assure, c'est que je fais très confiance. Très confiance. Je ne sais pas comment vous êtes, vous. Hein. Mais si je m'endors à côté d'un conducteur ou d'une conductrice, je fais confiance. Regardez à l'enfant qui s'endort dans vos bras. Il vous fait confiance, il me fait confiance. Regardez à celui qui paisiblement peut être endormi à côté de vous. Il fait confiance qu'il n'y a pas de mal qui va lui arriver. Et Jésus fait confiance à ses disciples. Il est fatigué, il peut s'endormir. Il lui avait même préparé un petit coussin. Je trouve cette image très attendrissante. Jésus pose sa tête, il s'endort. Cette image de la confiance que Dieu aujourd'hui encore nous donne. Je te fais confiance, mon ami. Je te fais confiance, mon enfant. Je te fais confiance pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Je te fais confiance à toi qui es là aujourd'hui. Même dans l'épreuve, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est le même message que nous avons aujourd'hui. Cette tempête se lève et Jésus dort toujours. Et ce n'est pas que les disciples faisaient rien, honnêtement. Ils se sont démenés, ces disciples. Ils ont ramé et ramé. Ils ont levé l'eau. Ils ont fait quelque chose dans la difficulté. Quand moi, je suis dans la difficulté, je m'acharne. J'y vais et j'essaye. Et j'y vais encore. Je ne sais pas vous. Et je téléphone, et je pleure, et je crie. Jésus, tu es dormi? Tu dors encore? Les disciples faisaient quelque chose. Jusqu'au moment, malgré les professionnels qu'ils étaient, ils n'y arrivent plus. Et ils éveillent le Maître, le Seigneur. Maître, Maître, tu ne vois pas qu'on est en train de périr? Entre parenthèses, soit dit, s'ils avaient péri, Jésus aussi, hein? Qu'est-ce qui se serait passé? Jésus aussi, hein? Et ce Jésus, ce Christ qui est là, qui dort, dans son humanité, parce qu'il est venu dans son humanité, va se lever dans le Dieu qu'il est. Et c'est peut-être là l'image la plus frappante et fondamentale de ce texte, que personnellement je vois, c'est qu'il est vrai homme et il est vrai Dieu. Il dort comme un homme qu'il est, dans ses limites, dans ses fatigues. Il avait guéri toute la journée. Il avait prêché toute la journée. Il avait été dans le donner aux foules. Si vous lisez les versets d'avant, c'est plein de tout ce qu'il a fait. C'est énorme. Il est fatigué, il dort, cet homme-là. Mais lorsqu'il est réveillé, au milieu de la tourmente, il est Dieu. Même le lac, les eaux et les vents lui obéissent parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est ton Dieu, ce Jésus-là. Alors oui, je peux me poser la question, est-ce que dans la difficulté, mon Jésus dort? Peut-être, mais il est là et il est Dieu. Et ça, un grand calme se fait. Et dans les textes originaux, ce grand calme dont il est question, j'ai un petit peu cherché, a mis à part que le vent tombe et que les vagues diminuent, c'est surtout le calme intérieur dont il est question. Les disciples passent de la panique totale au calme le plus plat, le plus incroyable qui soit. Ce calme total qui va les saisir au creux d'eux-mêmes et qui va descendre jusqu'à les rejoindre. C'est ce calme-là. C'est ce calme-là que je demande aussi. Cette paix profonde de la présence grand P. C'est plus un homme qui dort, c'est la présence grand P. Et alors, cette question de Jésus au milieu de ce calme qui est revenu. Où est votre foi? Où est-elle cette foi? Mes amis, Jésus les regarde. Où est votre foi? Et je ne sais pas comment vous êtes en train de l'entendre. Qu'est-ce que vous entendez? Où est ta foi? Où est ma foi? Peut-être vous l'entendez comme le reproche de Jésus. Peut-être comme une question simple. Mais là, ce dont il est question, et qui est très intéressant d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai pris la Darby, c'est parce que c'est la traduction la plus proche, en fait, dans ce contexte-là. Le « où », c'est le « lieu ». C'est « où », accent grave. Où, dans quel lieu se trouve ta foi? Comme s'il fallait la localiser. Comme s'il y a un endroit où la foi se trouve. Et par cette question, j'entends Jésus me dire « Rentre en toi-même dans le tumulte extérieur et va chercher ce lieu où ta foi réside. » Où est cette foi? Cette foi se trouve là où se trouve Dieu en moi. Voilà le lieu de ma foi. Et pour chacun de nous, ce sera différent. Chacun devra répondre à cette question individuellement. Où est votre foi? Et vous le savez, je l'ai souvent dit aussi ici, le mot « foi » dans le Nouveau Testament, c'est le mot « pistis » en grec, qui veut dire « confiance ». Où est ce lieu de la confiance? Où est-ce que tu as ancré cette confiance dans la présence divine qui te permet d'y retourner lorsque les mers sont déchaînées, lorsque les vents soufflent, lorsque le monde entier se trouble, mais que toi tu peux rester ancré dans ce lieu parce que tu reviens à cette présence qui est en toi, qui est en moi. Et c'est pourquoi c'est important pour moi, pour toi peut-être aussi, de savoir où j'ai placé ma confiance, où j'ai placé ma foi. C'est ça qui m'amène sur l'autre rive, envers et contre tout. C'est vrai que les disciples étaient des professionnels et ils n'ont pas réussi à braver cette tempête. Et je suis tellement heureuse de l'entendre parce qu'il n'y a pas de professionnels de la foi non plus. Nous ne sommes pas des professionnels de la foi. Moi, je ne le suis pas et je ne veux pas l'être. Mais par contre, je veux résider là où est ma foi, où ce Dieu tout autre, ce Dieu qui me dépasse, qui est, oui, venu en homme, oui, ça a été un homme, c'est identifié à nous tous, en humain, mais ce Dieu présent en moi, c'est ça. Et ça, ce n'est pas du professionnel, ça c'est du relationnel. C'est la relation qui me permet d'avoir ce lieu-là et de faire le chemin de la foi. Est-ce qu'on peut entendre, peut-être, où est votre foi? Cette question des origines. Adam, où es-tu? Un lieu aussi. Où est-ce que tu es, Adam? Où? Cette recherche et cet appel inlassable de Dieu qui va appeler et chercher Adam et nous tous. Où es-tu? Où te caches-tu? Parce que ce Dieu-là est assoiffé de relations. Et ce n'est pas une recherche comme une enquête policière. n'est pas une recherche qui pour investiguer. Non, c'est une soif de Dieu qui cherche son humain. Partout, toujours, dans le monde. Où es-tu ? Où es-tu ? Elle fait écho cette question. Où est ta foi ? Où est cette confiance ? Où tu peux vraiment être dans cette relation ? Je suis toujours interpellée dans les questions que la Bible pose. Presque toujours, je prends un texte où il y a ce genre de questions. Parce que ça me ramène à moi-même et à me poser et à me positionner. Nous sommes appelés à être positionnés, mes amis. Nous ne sommes pas appelés à rester voguant sur la mer, à tout flot et à tout vent. Non, ça c'est un passage. Ça arrive, c'est un passage. Et c'est vrai que dans la pensée juive, la mer est l'élément instable. C'est pour ça que ça représente la difficulté, le mal et tout ça. Il fuit d'Égypte, il se retrouve face à une mer. Quelle difficulté ! Ça représente toujours la difficulté, c'est instable. Mais ce n'est pas là que se trouve ma foi. Je suis appelée à la stabilité et au positionnement. La foi, c'est ça. La confiance, elle est stable. Et cette question va susciter chez les disciples un étonnement. Mais qui est cet homme ? Mais qui est celui-ci ? Oui, qui est cet homme ? Peut-être que la question devrait être, qui est ce Dieu qui vient nous rejoindre ? Mais qui est-il ? Voyez comme Jésus, par cette question, où est votre foi ? Ce n'est pas tellement un reproche, je pense, mais véritablement un retour à la source d'où on a placé notre confiance. Pour qu'en retour, on puisse aussi revoir, mais qui est-il ? Et cette question, malgré mes 30 ans de foi maintenant, je me la pose toujours. Qui est ce Dieu ? Extraordinaire, tout autre, que je ne peux même pas le décrire, que je ne peux même pas me l'imaginer, que je ne peux même pas, et pourtant qui m'aime, et pourtant qui est venu comme un homme, et pourtant qui me rejoint, et qui me fait tellement confiance qu'il peut s'endormir tranquillement. C'est lui. C'est lui. C'est là que se creuse le chemin de notre confiance, de notre relation, de notre foi en Dieu. Et ce que j'aimerais, c'est vous inviter à nous recueillir, tout simplement, pour qu'on puisse, nous aussi, se poser la même question. Où est notre foi ? Où est ta foi ? Est-ce qu'elle est dans les luttes effrénées des circonstances qui peuvent être difficiles, hein, on ne nie rien du tout. Maladie, chômage, divorce, deuil. Est-ce qu'elle est peut-être dans les défis qu'on s'impose nous-mêmes ? Plus grand, plus fort. Jésus, je vais être à ta droite, à ta gauche. La compétition. Où elle est ? Et j'entends en écho le Seigneur qui nous dit, bah, tu vois, je suis venu en homme. Je suis venu comme un homme, dans mes limites d'homme. Je dormais, j'étais fatiguée. Et ce sommeil m'a fait lever en ce Dieu qui a pu calmer même les éléments de la nature. Il est bien le Dieu créateur. Il est bien le Dieu créateur des origines. Et pourtant, je l'entends dire, moi aussi j'ai été lynchée. Moi aussi, j'étais reniée. J'ai dû passer par la croix. Ça ne m'a pas été évité. C'est pourquoi ce que nous entendons, ce que j'entends ce soir, c'est que tous les jours, il sera dans ma barque. Tous les jours, il sera avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Mais il n'évitera pas la tempête, quelle qu'elle soit. Comme lui est monté sur cette croix, nous aussi, nous traversons nos mers et nos tempêtes avec lui. Et en faisant retour, nous nous aventurons véritablement vers ce chemin de l'intimité et de la relation à notre Seigneur. C'est là, c'est ça le chemin étroit. C'est pourquoi on peut toujours lui adresser nos prières. Oui, c'est juste, c'est bon de lui donner nos prières, de lui adresser nos prières, parce qu'il honore notre foi. Il honore ta foi, ta confiance. Il n'a jamais dit aux disciples « t'as une toute petite foi ». Non, il n'a pas parlé de quantité. Il a parlé du lieu où se niche, où se trouve cette confiance. Je vous invite à nous recueillir. Et je termine avec un psaume. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où, quel lieu me viendra le secours ? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Non, il ne sommeille pas celui qui garde Israël. Il te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Oui, le Seigneur te garde au départ. Le Seigneur te garde au retour. Maintenant, aujourd'hui et à jamais. » Que le Seigneur vous bénisse.